Bonjour à tous, vous êtes sur 48FM et vous écoutez l'émission RPG ou Radio pour le Gaming. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Célia.
Bonjour, encore aujourd'hui c'est Thomas Radou qui va faire les news. Salut Thomas.
Oui, salut, salut Célia.
Et au niveau du reste de l'équipe, nous avons donc Thomas Carabin, Lucas, Benjamin et moi-même. Salut tout le monde.
Coucou. Hola.
Aujourd'hui le thème c'est la musique et justement on va en commencer avec une petite pour nous mettre dans l'ambiance. À l'arrache bien donc tenez-vous, écoutons The Only Thing I Know For Real de Tyson Yen.
Is...
Ah, ouais, c'est bon.
Oh.
Alors, on va revenir à l'événement incontournable de cette semaine. C'est bien sûr, les Game Awards. Dis-nous Thomas, qu'est-ce que ça a donné tout ça ?
Alors, je pense que vous êtes toutes et tous au courant. Hein. La semaine passée, c'était les Game Awards. Et si vous étiez braves, vous avez peut-être suivi la soirée en live à 3h du matin. Alors, perso, j'y étais. Je ne sais pas vous.
Courageux, parce que moi, pas du tout.
Pas du tout.
Mais voilà, écoutez, tout le monde s'était endormi en fait à la fin. Voilà, non, je rigole. On a eu beaucoup d'annonces et de trailers, mais je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est les gagnants. Sur les 32 catégories, voici celle à retenir. Alors évidemment, le jeu de la soirée, je ne fais pas durer le suspense, c'est Baldur's Gate 3 qui remporte le Game of the Year, meilleur RPG et meilleur jeu multijoueur. Est-ce que vous vous y attendez ou pas ?
Yes.
Bah c'était prévu, hein.
C'est quoi ce jeu ?
Franchement,
c'est quoi ce jeu ?
Baldur ?
Voilà, pas mal, non, c'est flamand. Donc voilà, évidemment, l'Ariane Studio hein, qui a brillé. D'ailleurs, le directeur de jeu est arrivé en armure, c'était exceptionnel.
Ça franchement,
c'est magique,
le mec.
Ça valait le coup. Alors d'ailleurs, la meilleure performance a été donnée à Neil Newbaum de Baldur's Gate 3, qui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, joue Nero ou Virgil dans DMC, possible ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Aucune idée.
Aucune idée. Je sais juste, il me semble que c'est lui qui jouait Astarion dans
Baldur's Gate. Oui, il fait Astarion dans Baldur's Gate 3, ouais. Meilleure réalisation, meilleure direction artistique, meilleur scénar, c'est Alan Wake 2. Le jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous y avez joué.
Pas du tout.
J'ai vu les trailers, c'est
pas
tout.
Pas encore, ouais. J'aimerais bien. Ouais.
Bah, ça avait l'air vraiment bien, mais apparemment pas optimisé, donc j'ai passé mon tour.
Comme d'hab en fait.
J'ai passé mon tour, c'est fin. Meilleur OST, Final Fantasy VII, pardon. Meilleur sound design, Hi-Fi Rush, donc, qui est un jeu de rythme entièrement basé sur le sound design, donc ça semble plutôt logique. Le meilleur jeu d'action, c'est Armored Core 6. Meilleure action, aventure, bon bah les fans de Zelda seront contents, c'est évidemment Tears of the Kingdom. Voilà, meilleur jeu e-sport, Valorant. À noter que Spider-Man 2 a été nominé 7 fois, mais il n'a rien gagné, ce qui personnellement me fait assez rire. Voilà, là je pense que la commu Marvel n'est pas très très contente. Enfin bon, voilà, je suis pas sur Twitter, mais on va voir. Donc,
et prochainement, on peut s'attendre à quoi dans les sorties ?
Oui, c'est vrai que les Game Awards, c'est aussi beaucoup d'annonces. Hein, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? God of War Ragnarok, il y a eu un DLC gratuit qui est disponible dès maintenant. Donc voilà, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout et j'étais agréablement surpris. Ready or Not, qui est un FPS tactique où tu incarnes un membre du SWAT, qui se veut très réaliste et franchement stressant. Hellblade 2, un action RPG prévu pour 2024, ça tourne sur Unreal Engine 5 et c'est franchement très très beau. On a vu j'ai vu les images du gameplay, enfin vraiment gameplay footage, et il y a un truc au niveau des visages qui, je trouve, c'est vraiment ultra bien fait. Là je me suis dit, ok, on n'est plus dans de la démo technique, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être. Là on est vraiment sur du Unreal Engine 5 exploité à son plein potentiel, donc c'est très très cool. On a aussi eu l'annonce d'un jeu Jurassic Park Survival. C'est un jeu d'action en solo uniquement qui est développé par Saber Interactive, donc ceux qui ont fait World War Z.
Ça, en vrai, celui-là, je me permets de t'interrompre, mais celui-là, ouais, il me tente beaucoup trop.
Ouais, genre, franchement.
Pouvoir visiter Jurassic Park et, bon, évidemment, essayer de survivre aux dinosaures.
Ouais, vrai jeu de survie, bien stressant, le trailer.
C'est ça, donc franchement, il a l'air vachement cool, j'ai hâte de voir ce que ça donne.
Ouais. Un nouveau Monster Hunter, donc Monster Hunter Wilds, donc développé par Capcom, qui sort en 2025 sans plus de précision. Et enfin, Windblown Motion Twin, qui est créé par Windblown, et le nom du studio, c'est Motion Twins, qui sont les développeurs de Dead Cells. Voilà.
Que des choses intéressantes, donc.
Ouais, et ça sort en 2024, sans plus de précision non plus. Donc ça pourrait être dans un an ou dans deux mois.
Bah, très bien, ça pourrait, on verra. Et dans l'actualité, on a aussi un autre jeu qui a fait beaucoup parler de lui, et pas en bien en fait, c'est The Day Before. Tu peux en résumer un peu les débats ?
Alors oui, The Day Before, parlons de The Day Before. Avez-vous joué à The Day Before ?
Pas du tout.
Pas du tout. J'ai vu le trailer.
J'en ai entendu parler.
Eh ben, vous avez bien fait de ne pas y jouer. on attendait le MMO en monde ouvert depuis 2021. Il est tout de suite devenu le jeu le plus wishlist de Steam. Alors voilà, le jeu, il est sorti. Et c'est la catastrophe. 15% d'avis positifs sur Steam. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Les graphismes sont décevants, la ville est vide, mais en fait, là où le scandale, c'est qu'en fait, elle n'a pas été créée par les devs. En fait, ils ont acheté un pack tout fait à 300€ dans la boutique de l'Unreal Engine 5, qu'ils ont ensuite très légèrement remodifié.
Mais non.
Mais si. les assets comme la gestion des stocks et les fonctionnalités, notamment, pourraient provenir du pack Survival Game Kit V2, à vos souhaits, qu'on trouve sur le même store à 60 balles.
Donc en gros, rien n'a été fait à la main.
Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un scandale en fait. Et le pire, c'est que le studio s'est déclaré en faillite après seulement 4 jours de vente. C'est pas rentable, qu'ils disent. En fait, la plupart des devs étaient seulement des volontaires qui n'étaient pas payés. Il y avait eu plein de polémiques autour du jeu quand il avait été annoncé que certains devs n'étaient pas payés, etc. On accuse évidemment le studio de se barrer avec la caisse. Si vous êtes sur Steam, vous pouvez vous faire rembourser, peu importe votre temps de jeu, alors que normalement c'est 2 heures sur Steam maximum. D'ailleurs, le tuto de The Day Before fait 2 heures pile poil. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une tentative de nous la mettre à l'envers. Mais du coup, Valve a réagi en mettant en place ce système. Peu importe que vous ayez joué 2 heures ou 5 heures, vous pouvez vous faire rembourser quand même. Et devant l'ampleur du désastre, je pense que l'affaire n'est probablement pas terminée.
C'était pas trop mal Star Citizen finalement.
Ah ouais.
Au moins ils bossent dessus, tu vois.
Ouais, c'est ça, voilà. Bah écoutez, maintenant je vous propose, après ces news incroyables, tous les mardis à 16h30, enfin mardi sur deux, je vous propose de vous laisser sur une OST de Danganronpa, donc le fameux jeu d'enquête, un visual novel. Alors, je vais essayer de le prononcer correctement. Le compositeur, c'est Suzumu Fits et Soraru. Et le titre, c'est Zetsu Buzei Hero Shiryu Yaku.
C'est ça.
Merci, bonne écoute. We'll be right back.
そいつが言うにゃ遠く交換だと誘惑従いざれごとに溺れ出した王様ゲーム強制参加拒否権なんて聞いちゃくれない課せられたクエストにはあの幕を通せ絶望だ打って棒まみれ少年に逃げ込んだ現実はラッタッタ欲望ないとかいつまに偽善者ぶても仕方ねえや憧れて夢なんだっけ黄色になりたいのうっぷっぷ願い口にする愛にくばかり続ける薬はないよ望むものは何問いかけ近く麻痺の証どうやら僕の頭もバグってしまいましたさえいる本超エゴイズム雑念のほどほどにとほらほら気になるあの子はもう壊れました思考回路は本能参加拒否権なんて聞いちゃくれない投げられた取引には常識を殺せ絶望だ深い潜まる少女に閉ざされた現実はラッタッタ本当に大事なものだから譲れない蹴落として求めたものは何だっけ唯一の場所じゃないんだっけ思い交差する気がついて誰かっての誰かのこの夢見がちな少女にも下されるクエストには黒色は負け絶望だ嘘この中の少年に追いかけた現実笑ったった虫のいいことならてて善人ぶても仕方ねえや書き違えた正義だって理想論語る偽善だっていいよただ望む白も黒もない本当の世界を
toutes ces news et cet incroyable OST, place au rêve et à la nostalgie. Thomas, tu nous offres un voyage musical à travers le monde de Warcraft.
Oui, voilà, tout à fait. C'est assez évident, mais voilà, jeux vidéo et musique, c'est deux choses indissociables. Donc que ce soit de la Wii-Beat ou d'autres orchestres symphoniques, la musique joue un rôle capital dans la création d'un univers. On peut d'ailleurs voir ça également au cinéma, où l'histoire raconte autant que les images ou les dialogues. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas raconter une histoire, mais avec la musique comme point central de narration. Donc, pour ce voyage, et voilà, comme tu l'as annoncé, et à la surprise de littéralement personne, moi je vais utiliser la musique présente dans World of Warcraft, parce que je trouve que les musiques sont quand même très variées, et généralement sont fortement liées à une zone, un personnage ou à une situation précise. Donc je vous propose de commencer notre voyage en 2016. Donc c'est... Il y a un petit temps déjà, mais voilà, je me suis dit, voilà.
Imagine, tu rentres de l'école.
Et... C'est ça, c'est exactement ça, tu rentres de l'école après une longue journée, t'es fatigué, tu lances le jeu, tu te crées ton petit perso et t'apparais dans un petit village humain appelé Comté de l'Or. C'est une zone paisible, pleine d'arbres, d'herbes bien vertes, d'éclairières fleuries et des cours d'eau claire. La vie est belle. Mais votre esprit d'aventure vous appelle. Vous décidez donc, d'aider les habitants dans différentes quêtes, certaines plus dangereuses que d'autres. Votre vie pourra être mise en danger, mais vous vous renforcez et vous pouvez affronter des créatures comme des murlocs ou des loups sauvages. Mais voilà, vous vous entendez et vous gagnez en force. Et c'est là qu'on vous appelle. Voilà, vous êtes fait un petit nom dans la région, on vous appelle à la capitale pour recevoir une mission de la plus haute importance. Vous passez les grandes portes de la ville, vous traversez ces quartiers pleins de vie, de marchands, d'autres aventuriers, d'autres enfants qui courent le long des canaux et qui traversent la cité. Vous rencontrez un haut placé de l'armée qui vous ordonne de traverser la mer et vous rendre sur le continent mystérieux de Kalimdor. Là-bas, vous rencontrez un émissaire orc qui souhaite faire appel au service de tout aventurier assez courageux pour affronter les dangers qui les attendent. Et là, vous arrivez devant les portes d'Orgrimmar, le cœur de la Horde et la capitale des orques. Son architecture est brutale et ça vous interpelle. Des pics d'acier ou même parfois d'os se hissent sur les toits des bâtiments. La roche rouge et brûlante du canyon dans lequel s'étend la ville vous semble si étrange comparée à votre douce forêt. Mais pas le temps de niaiser. On vous explique rapidement qu'un mal s'est élevé et que seuls les meilleurs combattants de la Horde et de l'Alliance peuvent espérer l'arrêter. La Légion est de retour. Ni une ni deux, vous embarquez dans un navire qui part vers une île mystérieuse, oubliée depuis des lustres, mais qui soudainement s'est mise à s'agiter. Votre centre d'opération, c'est une ville magique, suspendue dans les airs au nom tout aussi étrange que son apparence, Dalaran. De là, vous allez traverser de nombreux territoires, affronter de nombreux ennemis et perdre nombre de compagnons d'aventure tombés pour défendre leur monde. Malheureusement, il n'y a pas le temps de s'apitoyer. Le danger reste présent. Vous pénétrez dans une ancienne tour. Autrefois un lieu de culte, maintenant un lieu d'horreur. Vomissant des hordes de démons. Le combat est rude, vous traversez les couloirs, les salles du mieux que vous pouvez. Et enfin, après de nombreuses épreuves, le boss de fin. Un démon gigantesque, la peau d'un rouge vif, des ailes griffues et des sabots en guise de pied. C'est un des lieutenants de la Légion. Vous vous lancez à corps perdu dans ce combat. Il est beaucoup plus fort que vous, mais l'union fait la force. À vos côtés, de nombreux héros, armés jusqu'aux dents, combattent également. Un petit groupe, un peu mieux protégé, s'occupe de garder l'attention du démon, tandis que le reste s'occupe de le frapper comme ils peuvent. Aidés de soigneurs concentrés à garder tout le monde en vie. Le combat est rude, plusieurs tombent, mais finalement, votre volonté a triomphé de ce monstre. Malheureusement, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Il faut quitter son vaisseau, car il va exploser. Un mage du nom de Khadgar lance un sort de téléportation juste à temps pour sauver tous ceux qui peuvent encore l'être. Voilà, vous arrivez sain et sauf sur une colline. Vous avez gagné, mais le pire reste à venir. Dans le ciel, un portail gigantesque s'ouvre sur un démon de la Légion. Une nouvelle planète apparaît progressivement dans le ciel. Votre destination est donc toute tracée, mais serez-vous assez fort pour parvenir au bout de ce chemin semé d'embûches? Serez-vous les héros que ce monde attend, sur lesquels ses habitants comptent pour mettre fin à l'invasion infernale de la Légion Ardente? Seul l'avenir nous le dira. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de la petite expérience, pardon. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je voulais vraiment mettre en avant le fait que, outre le côté combat, y a tout un monde qui nous est présenté et qui est vraiment richement construit, notamment, comme je l'ai, j'espère, bien montré ici, avec ces musiques qui sont vraiment sublimes. Alors voilà, pour les gens sur le plateau, est-ce que pour vous ça a marché cette petite expérience?
C'était épique. Ouais.
Ça a très bien marché.
Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça m'a presque donné envie de relancer. Wow.
Yes, j'ai réussi.
Juste avant la bloc, super.
Ouais, voilà, c'est le meilleur moment pour commencer un jeu vidéo, d'ailleurs, je trouve.
Exactement, mais c'est vrai que pendant la bloc, je n'ai jamais joué autant.
Ah, c'est clair. C'est clair.
Donc, ouais, bon, on juste, voilà, dans ce récit-là, il n'y a pas eu les. On n'entend pas, tu sais, quand t'es en appel à 25 avec les gens qui ont des micros qui saturent.
Non, c'est clair.
Et qui disent, un mec qui fait Leroy Jenkins. Bon,
voilà, c'est ça. C'est clair que, voilà, ici, je vous ai montré le beau côté de World of Warcraft, quand même. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté très. Voilà, tu rentres chez toi, tu poses ton sac, t'as plus rien à faire de ta journée. Tu vas te connecter, tu vas jouer et tu vas vivre plein de trucs. Finalement, c'est ça qui est cool. Et c'est vrai que. Enfin, World of Warcraft, c'est vraiment un jeu qui sort peut-être sur. Il y a vraiment une ambiance qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir, et que je pense que c'est vraiment des gens qui ont bien joué au jeu, qui savent ce que c'est, quoi. Et je trouve que tu l'as pas mal bien retranscrit. Je vais y arriver.
Merci, merci, merci. Bah voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté et d'avoir voilà, vécu cette petite expérience avec moi. Bah voilà, peut-être qu'un jour, on réessayera de faire quelque chose de similaire. Et bah à présent, je vais vous laisser avec une autre musique de World of Warcraft, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et alors, cette musique s'appelle Ruins of Zinas Shari, qui a été composée par Glenn Stafford pour l'extension Battle for Azeroth.
Tour maintenant pour une chronique un peu à la Inception, parce que tenez-vous bien, je vais vous faire une chronique radio sur une station radio existant dans un jeu vidéo. J'espère que je ne vous ai pas perdu car le plus intéressant est à venir. Je vais vous parler de Growl FM. Mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est une station de radio pirate incorporée dans le célèbre jeu Cyberpunk 2077 ou 2077 à la belge, je préfère.
Ah, franchement,
je pense
non.
Qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs français. Donc
je
vais
dire, de toute façon, j'allais dire 77, mais je la trouvais un peu barbare, c'est dire 77 comme ça. Que je ne présente pas, car j'estime que tout le monde devrait connaître. Voilà, c'est comme ça. Non, plus sérieusement, 2-3 mots sur le jeu pour les moins initiés. Donc Cyberpunk 2077, c'est un jeu vidéo d'action RPG qui se déroule dans les rues plutôt dystopiques de Night City, une mégalopole obsédée par la technologie, et on y incarne le ou la mercenaire V, où nous construisons notre destinée entre d'un côté cyber-augmentation, intrigue politique et affrontement épique. Le tout évidemment sur fond de bandes sonores électrisantes et d'une esthétique cyberpunk captivante. Le studio derrière tout ça, c'est CD Projekt Red qui a développé le jeu. Donc en fait, il cherchait une nouvelle manière de faire participer sa communauté. Il faisait déjà des concours de modélisation ou des concours de screenshots par exemple, mais il cherchait à innover. Et puis l'idée d'un concours musique est apparue, de musique pardon. La musique étant déjà très importante dans le jeu, mais aussi dans l'univers même du cyberpunk. La question était donc comment incorporer la musique de la communauté dans le jeu. La station de radio s'est donc petit à petit construite et évidemment ce n'est pas la première ni la seule, il existait déjà de nombreuses stations de radio que l'on peut écouter dans le jeu, en conduisant par exemple ou en se baladant dans la rue près d'enceinte. et chacune d'entre elles possède un peu sa propre identité. J'en cite quelques-unes, Body It, qui est la plus connue et la plus écoutée sur YouTube, ou Moro Rock Radio, Pacific Dreams ou Night FM. Mais revenons plutôt à la création de Growl FM. Et donc le concours a été extrêmement bien accueilli avec des centaines de candidatures rien que le premier jour. Puis, le nombre n'a cessé d'augmenter, transformant les centaines en des milliers de candidatures, ce qui a vraiment créé la surprise chez CDPR. Et pour la poignée de gens qui ont tout écouté pour sélectionner les finalistes, ça représentait des centaines d'heures de travail. Un énorme challenge qui a surtout suscité un grand enthousiasme, c'était en fait très satisfaisant pour l'équipe d'écouter toutes ces créations de leur communauté. Ils avaient créé quelque chose et en fait leur communauté leur rendait l'appareil. Et la plus grosse difficulté n'était donc pas de passer tout ce temps à écouter les propositions parce que c'était plutôt du plaisir, mais plutôt d'en dégager les meilleurs. Parce qu'évidemment, tout le monde le sait, ici chacun a ses propres préférences en matière de musique et c'est pour ça qu'ils ont vraiment cherché à recréer une atmosphère et une harmonie entre les différentes musiques pour au final constituer l'identité de Growl FM. Et justement, la spécificité de Growl FM, c'est que c'est une station pirate anti-gouvernementale et donc elle se compose de différents styles assez différents, de genres et d'inspiration. Ça passe à du rap, un peu old school, à des compositions plus harmonieuses, je vous en ferai écouter une, ou carrément du gros son qui fait trembler les tympans. Et donc la station est située à Docktown, c'est la zone en fait du DLC Phantom Liberty qui est sorti récemment, mais d'ailleurs depuis la mise à jour 2.0, de Cyberpunk, elle est aussi disponible dans le jeu de base. Surtout que depuis cette mise à jour, une autre du 5 décembre, on peut écouter n'importe quelle radio, n'importe où, sur soi, comme si en fait on avait des écouteurs dans nos oreilles, ce qui est plutôt pas mal si on veut s'immerger, mais en même temps écouter la musique dans nos oreilles. En tout cas, ce que j'aime particulièrement avec cette démarche, c'est ce lien qu'entretient le studio avec sa communauté. J'ai toujours adoré la musique fan-made en général, mais le fait de l'incorporer dans le jeu même, je trouve ça vraiment trop chouette, à la fois pour eux, les devs, pour les artistes et pour nous joueurs qui écoutons les incroyables créations d'autres joueurs qui réussissent si bien en fait à retranscrire l'expérience du jeu que nous jouons en même temps qu'eux, enfin, ou que eux ont joué pardon, à travers leur propre musique. Et donc pour ceux dont la curiosité a été piquée lors de ma chronique, je vous invite à vous rendre directement sur la chaîne YouTube de Cyberpunk 2077 pour écouter la vidéo entière qui parle du making-of de Growl FM, qui est super intéressante. On y retrouve de plus amples détails sur ce que je viens de vous présenter, les différents membres de l'équipe qui ont participé à la création, mais aussi les témoignages des artistes finalistes, leur processus de création, ce qui est très intéressant. Et enfin, pas d'excuses, pas besoin d'avoir le jeu pour écouter Growl FM, car la playlist est aussi disponible sur YouTube. Donc, ce fut très dur pour moi de choisir, mais je vous propose de conclure cette petite chronique avec justement un morceau de Growl FM. Donc c'est parti pour Afterlife de Time McGrath et Just Cause Playthings. Thank you. Alors, c'était pas la bonne musique, mais elle était quand même chouette. Tant mieux, comme ça, vous irez l'écouter par vous-même. Je rappelle le nom, c'est Afterlife de Ty McGrath et Just Cosplay Sings. Alors maintenant, Lucas, tu vas nous parler de musique, mais de musique bien spécifique, attention, car tu vas te concentrer sur le jeu Castlevania.
Oui, Célia, c'est une franchise chère à mon cœur. Castlevania est un jeu d'action-aventure sorti sur une myriade de plateformes, de la NES jusqu'à la Wii, et en particulier de sa musique qui fait, à mon sens, tout le charme des jeux. Vous êtes en train d'écouter le générique de la série animée de Netflix, réalisée en 2017. Quel meilleur moyen de commencer cette chronique ?
Alors nous avons un petit bug,
petit bug technique.
Ah, il arrive.
Voilà. Commençons notre journée en 1987 avec Castlevania 1, sorti sur NES. Imaginez être un enfant et parcourir le château de Dracula en tuant zombies, squelettes, fantômes et une cohorte d'autres ennemis au service de Dracula. Vous avez parcouru 5 niveaux, perdu de nombreuses vies. Mais vous parvenez enfin au 5ème niveau et vous êtes rempli d'une volonté de puissance et finalement vous arrivez à vaincre Dracula. Mais votre périple ne touche guère à sa fin car le corps de Dracula a été séparé en 5 et vous êtes de nouveau chargé de les réunir pour enfin bannir Dracula.
C'est vraiment de l'acharnement ça. Hein.
Je ne m'étendrai pas sur la catastrophe qui était Castlevania 2 au niveau gameplay. Konami a voulu changer ce qui a fait le succès du premier jeu. Grosso merdo, retenez mauvaise traduction et énigme foirée.
Ok, d'accord.
Et par énigme foirée, j'entends, vous devez rester accroupi 3 minutes près d'une falaise pour qu'un objet essentiel à la suite du jeu apparaisse.
3 oui, minutes sans rien faire.
3 minutes sans rien faire.
Voilà. Parle de...
Castlevania 3,
ton gameplay, quoi,
quant à lui, se passe dans un univers différent. Vous incarnez Trevor Belmont, un chasseur de vampires dans la Valachie du 15e siècle. Et contrairement au deuxième opus, deux nouveaux personnages vous accompagneront dans votre quête. Saifa Belnades et Grand Danasty. La musique pour les jeunesses a été composée principalement par Kiyono Yamashita. Et je trouve que sa musique donne vraiment une atmosphère horrifique au jeu et a sans doute contribué au succès de ceci. Passons les opus sur la Super Nintendo car malheureusement la console n'a pas accueilli beaucoup de jeux de la franchise, si ce n'est un remake de Castlevania 1, étrangement appelé Super Castlevania 4, et ou plus étrange encore, Castlevania 10 ou Vampire's Kiss en Europe, un remake de Castlevania Rondo of Blood sur la TurboGrafx 16, une console obscure de chez NEC Home Electronics sortie en 1989. Le prochain jeu majeur de la franchise est Symphony of the Night, sorti sur PlayStation 1. Vous contrôlez le fils de Dracula et au fil de votre aventure, vous apprendrez que Richter Belmont a disparu à cause d'une malédiction du prêtre Shaft. Une fois vaincu, vous pourrez combattre Dracula, après quoi Alucard, c'est son nom, détruit le château maléfique. Là où Symphony of the Night se distingue des opus précédents, c'est par son gameplay de type Metroidvania que va adopter le reste de la franchise sans presque aucune déviation. Metroidvania fait référence aux RPG et jeux d'aventure, à la progression non linéaire et à l'exploration de la map libre. C'est un genre plutôt répandu, citons notamment Blasphemous ou encore Hollow Knight. Vous n'écouterez qu'un extrait de la bande-son du jeu, mais la musique composée par Michiru Yamane est extrêmement diverse. On y retrouve des influences de jazz, de rock ou d'électronique. Après ce jeu à succès qui reçoit un 9 sur 10 de la part d'IGN, la franchise connaît un opus sur Game Boy, sorti en 1989, franchement oubliable si ce n'était pour sa musique. La Game Boy Advance connaît-elle 3 jeux, Castlevania Circle of the Moon, Aria of Sorrow et Harmony of Dissonance. Dans Circle of the Moon, vous contrôlez Nathan Grave, un apprenti du chasseur de vampires Maurice Baldwin, et le jeu s'ouvre sur une scène où celui-ci se fait kidnapper et c'est à vous évidemment de le sauver et de tuer Dracula. Dans Aria of Sorrow, vous contrôlez Soma Cruz et son ami Mina qui se retrouvent transportés dans le château de Dracula après une mystérieuse éclipse solaire. On n'en sait pas plus.
D'accord.
Et dans Harmony of Dissonance, contrairement aux deux opus précédents, vous contrôlez de nouveau Abelmont, puisque le jeu prend place 50 ans après les événements de Symphony of the Night. Mais on ne sait pas pourquoi le château de Dracula a réapparu. Juste Belmont, c'est son nom, reçoit une lettre de son ami Maxime, qui a été capturé par Dracula. Enfin, la déesse recevra les derniers jeux classiques de la franchise, Portrait of Ruin, Dawn of Sorrow et Order of Ecclesia. Alors j'adore cette musique, ça me fait beaucoup penser à un thème qu'on entendrait dans Final Fantasy.
J'y pensais justement
quand vous combattez Sephiroth, voilà, c'est ça. Ce jeu est une suite des événements d'Area of Sorrow. La vie tranquille de Mina et Soma est perturbée quand Celia Fortner, qui a pour dessein de résurrecter Dracula,
Ressuscité.
L'anglais, c'est pas grave.
Réussit à faire réapparaître le château de Dracula. Dans Portrait of Ruin, vous contrôlez un descendant de la famille Belmont, Jonathan, et son amie magicienne, Charlotte Austin. Les deux doivent venir en aide à Vincent Dorin, coincé dans le château de Dracula. Enfin, dans Order of Ecclesia, on retrouve un ordre de mages appelé l'Ordre d'Ecclesia, qui est une organisation dédiée à combattre les forces du mal, dont les membres sont formés pour utiliser des glyphes magiques pour lutter contre les ténèbres. Donc le jeu commence avec la disparition du chef de cet ordre, Barlow, et Shanoa, le personnage que vous contrôlez, est choisi pour le remplacer. Bref, vous l'aurez compris, je pense, les jeux principaux de la franchise suivent tous la même formule, exploration d'un château, éléments de RPG et Dracula comme boss final. Mais le jeu a connu plusieurs spin-offs, notamment la série des Lords of Shadow, initialement sortie sur PS2, et le jeu combat Castlevania Legend, sorti sur Wii. L'histoire du jeu est assez alambiquée. Un personnage récurrent de la franchise nommé Galamoth, qui est un boss optionnel dans Symphony of the Night, envoie la faucheuse dans le passé pour détruire Dracula et changer le cours de l'histoire. Mais un homme nommé Eons s'en rencontre et réunit différents héros pour détruire la faucheuse. Quant à Lord of Shadow, vous contrôlez Gabriel Belmont et vous devez parcourir non pas un château, mais la terre des nécromanciens pour récupérer un masque qui vous permettra de ramener votre épouse à la vie. Voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. Je vous propose qu'on se retrouve pour une petite intermission musicale avec Who Can It Be Now de Men at Work.
Can It Be Now? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Maintenant, c'est la chronique de Benja. Benja, excuse-moi.
Ah, c'est beau.
Benja, tu retraces. Eh oui, je sais.
Ah, mais c'est transition de ouh.
Incroyable.
L'évolution donc de toute la chiptune musique. Mais en fait, c'est quoi exactement?
Ben, si je vous dis musique de vieux jeux vidéo, en gros, vous comprenez assez facilement de quoi je parle. C'est la musique 8-bit. Et en fait, chiptune, le nom se réfère en anglais à une puce électronique. Ici, dans ce cas-ci, une puce audio. En gros, c'est un mini-circuit électronique qu'on appelle aussi, pour le terme technique, circuit intégré. Donc je vais d'abord me balader un petit peu dans le capot justement de ces musiques pour vous montrer comment ça s'est passé, les premières inventions. Et assez tôt, en fait, les premiers ingénieurs informaticiens qui tentaient de créer de la synthèse sonore à partir des récents PC ont commencé sur l'IBM PC ou l'Apple II justement. Et ces ordinateurs étaient équipés d'un beeper speaker, donc un haut-parleur capable de générer un seul son à la fois. On pouvait juste faire varier la tonalité. Donc c'était absolument pas fait pour faire de la musique, mais certains programmeurs ont commencé à faire des musiques plutôt complexes avec. Le problème, c'est que le son était directement généré par le processeur, et donc ça bouffait beaucoup des ressources. Donc dans les années 80, les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo progressivement se sont équipés de chipsets audio dédiés, pour justement soulager le processeur. Et alors, ces chipsets audio possédaient un son très caractéristique. Si les noms ne vous disent rien, les sons, vous les connaissez. Donc il y avait le RP2A03 qu'on retrouvait sur la NES.
Ah
la
oui, je connais.
Oh, oui, exactement. La très célèbre LR35902 qu'on retrouve plus tard sur la Game Boy, ou la SID, plus facile à prononcer, sur le Commodore 64 et PC. Et je ne vais pas tous les faire parce que ça ne ferait pas lire de jalousie ces 3 PO. mais du coup, on connaît fort les chipsets graphiques. C'est ceux qui permettent de générer un signal vidéo. Les chipsets audio font généralement la même chose mais avec de l'audio. Donc les graphiques des premières consoles 8-bit avaient des possibilités assez limitées en termes de rendu graphique, donc c'est 8 puissance 2, donc 256 valeurs différentes, 256 nuances de couleurs. Et quand on parle de chiptune musique, on dit aussi musique 8-bit, mais en réalité il s'agit d'un imbu de langage. Donc il y a deux manières d'émettre un son de manière électronique, soit le générer par synthèse, donc créer le son, soit jouer un son préenregistré, un échantillon ou un sample. Et le terme musique 8-bit fait plutôt référence à l'architecture du processeur des ordinateurs utilisés pour créer ces sons qu'à la qualité des échantillons qui étaient joués, qui étaient assez peu présents. Et tout ça est très technique, mais ces puces audio permettent de faire des opérations de synthèse sonore, donc des oscillateurs, des amplificateurs, des filtres. En gros, c'est ce qui permet à un signal audio de se produire et de faire de la musique, de produire un son et de s'arriver jusque dans vos oreilles. Donc le but, c'est pas de vous expliquer comment fonctionne un synthétiseur, évidemment. Et dans les années 70-80, en fait, il y a des instruments assez poussés, en fait, au niveau de la synthèse qui arrivent, donc qu'on appelle synthétiseur, justement. Et leur capacité devient assez incroyable, donc c'est les trucs qu'on entendait dans Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, les autres Kraftwerk. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça coûtait assez cher, donc parfois ça coûtait le prix d'une voiture, voire carrément d'une maison, ces trucs-là. Donc la synthèse sonore des puces audio 8-bit, elle était quand même assez médiocre, mais elle permettait justement de venir pallier à ce prix assez cher qu'on retrouvait pour les synthétiseurs. Et donc il y a un jeu de mots qui est assez vite arrivé. À l'époque, on parlait de cheap tune à la place de cheap tune, donc pour faire musique pauvre, qui ne coûte pas cher, plutôt que musique faite par des puces. Et on retrouvait ces puces audio dans des bornes d'arcade, dans des cartouches de jeux vidéo, et sur les premières consoles. Et en réalité, si je vous dis musique de vieux jeux vidéo, tout le monde voit très bien de quoi je parle. Un son robotique, pas très naturel, assez carré, un peu comme l'extrait qui va y arriver. Et je pense que beaucoup de gens l'ont reconnu, mais c'est l'OST de Final Fantasy III sur NES ici dans ce cas-ci, mais qu'on retrouve dans tous les Final Fantasy en fait. Et donc ce prélude, aussi appelé le Crystal Theme, il est composé par Nobuo Uematsu, pardonnez-moi, en à peu près 10 minutes au dernier moment, et puis il est balancé sur la cassette comme ça. Et en fait, c'est un arpège ultra basique sur des accords qui s'enchaînent note par note, et toutes de la même longueur, donc ces notes s'équivaut à un pas du séquenceur. Et j'ai pas su retrouver exactement la raison de cette simplicité rythmique, mais ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, ça a clairement facilité la programmation de ce prélude sur les premières cassettes des Final Fantasy. Et ça m'amène plus précisément à notre deuxième partie. Donc techniquement, ces puces audio, comme je disais, font d'abord de la synthèse sonore, donc elles produisent un son, mais après ce son, il faut aussi l'arranger. Donc ça, c'est le séquençage. Et le séquençage, de quoi tu me parles encore? C'est une chronique assez technique encore une fois, mais je
on
pense que
rien.
C'est vrai.
Non, c'est faux.
J'essayais quand même de rendre ça digérable, mais Moi, je pense que du coup, je vais m'étaler sur la deuxième partie. Donc, comme je disais, il y a deux fonctions à ces puces. Après avoir généré le son, il faut le placer en ordre, d'où le nom séquenceur. Il va créer des séquences. Et c'est le même principe en fait que le papier à musique qu'on met dans les orgues de Barbarie, ou encore les petits points des boîtes à musique qui permettent de jouer les notes les unes après les autres. Sauf qu'ici, c'est un signal électrique qui est déclenché par le code au bon moment, à la bonne tonalité. Et des types de séquenceurs, il en existait plein. Enfin, il y en a plein, mais un qui a modifié le paysage sonore des jeux vidéo, et aussi même des années 90, c'est le tracker. Donc à la base, les trackers, c'est des logiciels qui arrivent sur la Commodore Amiga en 1987, avec l'Ultimate Sound Tracker. Alors, ces trackers avaient 4 pistes audio, donc on pouvait jouer 4 notes en même temps. Et en fait, aujourd'hui, il y a peu de gens qui utilisent encore les trackers. Hein. Ça ressemble à une espèce de gros tableau Excel avec des chiffres qui défilent de haut en bas, un peu comme dans Matrix. Mais quand on apprend à lire, c'est beaucoup moins ésotérique.
La musique, c'est des maths, en fait.
Oui, complètement, c'est ça. Et alors, je vais quand même citer 2-3 artistes assez connus quoi, qui utilisent encore ces logiciels aujourd'hui. On peut citer Aphex Twin, Darude, celui qui a composé Sandstorm, le gros même. Delmo5, Infected Mushroom, Machine Drum, Squarepusher, The Prodigy. Et de manière moins connue, toute la scène early hardcore et rêve des années 90 en fait a été beaucoup influencée par l'usage de ces logiciels. Et alors revenons-en plutôt à la musique 8-bit en tant que telle. Mais justement, cet usage d'audio bas de gamme a vite disparu, aussi vite que les technologies plus performantes l'ont remplacé. Mais du coup, derrière, les derniers usages massifs qu'on a connus sans doute, c'était la Game Boy, qui était une des dernières consoles à utiliser encore le 8-bit par sa portabilité, qui nécessitait d'être moins puissante que les consoles de salon. Et aujourd'hui, la scène chiptune existe encore. Elle existe autant par nostalgie de la technologie que par qui avait un charme quand même assez particulier, mais aussi par souci esthétique d'un son brut, lo-fi au sens propre du terme, de basse fidélité, et qui lui donne tout son cachet. Donc il y avait par exemple la LSDJ, donc pour Little Sound DJ, qui était un programme assez commun qui permettait de transformer votre Game Boy en logiciel de musique. Il y a encore pas mal de gens qui le font. Et j'avais vu dans le genre un groupe italien, donc Busker Droid, qui jouait tout un set de musique électronique sur deux Game Boy.
C'est fou ça.
Ouais, c'est complètement dingue. Hein.
Tu viens avec tes deux Game Boy en concert comme ça.
C'est ça, et tu joues de la musique sur ton Game Boy quoi.
David Guetta n'a qu'à bien se tenir.
Exactement. Et alors, évidemment, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent d'émuler les sons 8-bit des différentes machines, mais il y a beaucoup d'aficionados qui ne jurent que par l'usage de ces vieilles machines en tant que telles, donc les Commodore 64, Amiga, NES, comme je le disais, qui ont tout un son très caractéristique. Et au-delà de ces sons qui peuvent être tout à fait émulés, je pense que c'est aussi le plaisir procuré par le plaisir procuré par ceux qui écoutent encore des vinyles. En fait, c'est juste un autre rapport à l'objet. Jamais on ne pourra composer sur un ordinateur comme on composait à l'époque. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui utilisent encore ça à cause de l'ambiance de travail que l'objet en lui-même crée à celui qui l'utilise, à un rapport plus lent et peut-être même un peu plus sacré comme les vinyles. Mais justement, cette chronique se termine et je vais vous laisser avec Busker Droid qui avait 2 vues sur YouTube.
Ils en ont 8 maintenant.
Oh. Je pense que
placement
jamais
de
personne
produit,
n'a entendu.
Partenariat avec eux.
C'est exactement.
C'est parti. We'll be right back.
L'émission se termine tout doucement. Merci tout le monde pour ces super chroniques. Je me demandais si on a un peu de temps devant nous, donc si vous aviez des réactions justement sur ce qui vient d'être dit. Moi, personnellement, je suis plutôt contente d'avoir compris la chronique de Benjamin. Je ne savais pas que j'allais tout comprendre.
J'ai réussi à vulgariser ça.
Ouais, franchement, t'as bien vulgarisé. C'était pas facile en plus, j'imagine.
Non, c'est pas des choses faciles à expliquer, mais...
Bah, sur le sujet. Ouais.
Ça me fait penser un peu comme dans Minecraft, au final, tu sais, il y a des gens qui font des machines avec plein de notes blocs qui jouent pour pas vraiment jouer une note et ils te refont la 5e symphonie.
Bah, c'est carrément ce rapport-là en fait à la musique.
Ouais, où tu places vraiment bloc par bloc et t'as juste un courant de redstone qui passe et qui
ton instrument, c'est le jeu vidéo en fait.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est totalement ça, mais ça fait des trucs de fou quoi, et les harmoniques aussi sont folles.
Et donc, ouais. Aussi un peu rien à voir, j'avais une petite question. Lucas, tu as introduit le générique, enfin tu as introduit ta chronique avec le générique Netflix de Castlevania, pardon, je me suis un peu éloignée. Justement, est-ce que tu recommandes cette série à nos auditeurs ?
Alors, je recommande de tout cœur, de tout poumon, de tous les organes.
De toutes tes forces, tu
vois. On sent le fanboy ici.
Elle est excellente.
Les tripes.
Non, la musique est excellente. Ils ont fait notamment un remix de Bloody Tears, qui est le thème légendaire de la série. Pendant le combat d'Alucard contre Dracula, et je jubilais quand j'ai regardé cette scène.
Ah, c'est assez fidèle à l'univers.
Oui, la première, oui, mais ils en ont ressorti une en 2023 qui s'appelait Castlevania Nocturne, que je ne recommande pas trop parce qu'elle était plutôt médiocre, à mon sens. Okay.
C'est vrai que j'accroche nettement moins à celle-là, bah du coup, j'ai regardé. C'est vrai que la première saison avait une narration assez exceptionnelle, la deuxième... Reste, je trouve, en tout cas, moi je connais très mal Castlevania, mais en tout cas, moi j'apprécie ce que je regarde. Mais après, c'est vrai que je trouve que c'est moins accrochant que la première saison.
L'animation restait sublime. Hein,
Et c'est une série et pas une animation.
Si, justement, c'est un dessin animé.
Enfin,
un dessin
animé, entre guillemets. Ouais. Ok, ok.
Mais, ouais, tu voulais dire
bah, j'allais juste dire que moi j'ai toujours un peu du mal avec tout ce qui est, on va dire, les animés, on va dire, puisque il reprend quand même pas mal de codes de l'animé, c'est qu'il y a parfois trop peu d'images par seconde, à mon goût.
Ah oui, ok.
Après, clairement, la qualité des dessins et des effets visuels compense largement.
Est-ce que tu as regardé Cyberpunk Edge Runner ? Je reviens sur Cyberpunk, moi je suis aussi une fanboy.
J'ai regardé 5 minutes, je crois.
Oh, t'as pas aimé ?
J'accrochais pas du tout.
Ah, c'est la DA ou...
La DA était plutôt cool, c'était plus la mise en scène et je trouvais qu'il y avait un très fort surjeu au début et okay, ça m'a vraiment découragé instantanément alors que tout le monde m'a dit que c'était exceptionnel.
Ah ouais, ça passe ou ça casse chez les gens à qui j'ai demandé en général. Ouais.
Perso, j'ai regardé vite fait, mais en fait j'ai surtout écouté les OST.
Ah, elles sont incroyables.
J'ai vraiment aimé. Et à un moment donné, je sais pas, j'écoute la playlist, à un moment donné j'entends du Mastiff qui est un groupe de métal, mais genre c'est le truc ultra hardcore. Et je me dis, mais ils ont mis ça dans Cyberpunk. Et donc j'ai été voir un petit peu la... des extraits, etc. Et c'est vrai que ça avait l'air cool, etc. mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas été plus loin. Alors que je sais que je devrais, parce que tout le monde dit que c'est bien. Et mais voilà, j'espère vraiment que je pourrai le, que j'aurai le temps. Mais bon, la bloc arrive, donc oui, j'aurai le temps, bien sûr.
Moi, il faut savoir que j'ai d'abord regardé l'animé en fait, et que c'est lui qui m'a donné envie de,
ah ouais,
de jouer au jeu.
Ah ouais, d'accord.
Donc, vraiment rien à voir. En général, c'est, bah, c'est le jeu et ils font ça pour leur communauté, justement. Ils se disent, oh, bah, on va faire ça pour eux, c'est chouette. Moi, pas du tout, justement, c'est le contraire. Okay. Ça m'a vraiment attirée. Je me demandais justement, c'était quoi cet univers un peu. What the fuck, enfin un peu hyper futuriste et tout, et moi j'aime bien en général tout ce qui est futuriste, donc voilà, j'ai vraiment aimé.
Bah, la série arcade m'a donné envie de m'intéresser en tout cas au lore.
Ouais, non, fuis le jeu.
Ça c'est, alors, c'est le sujet, ça n'a rien à voir.
On a déjà essayé, des anciens chroniqueurs de feu Pixel Odyssey m'ont déjà pris sur League of Legends en essayant de m'expliquer. J'ai joué une healeuse, je sais même plus te dire laquelle, et j'ai spammé le même combo. Et puis voilà, j'étais content, et j'ai, mon expérience s'est arrêtée là. Donc je ne dis pas que ça m'a fait m'intéresser au jeu, je dis juste que je me suis intéressé au lore derrière. C'est pas pareil.
Ça c'est bien, le lore c'est cool en vrai.
Après Arkane, justement, ça préfigure aussi, je sais pas si ça tient toujours ce projet, mais je pense, hein, ils avaient dit qu'ils allaient faire un MMO justement dans
Il est en cours, il sort. Il y a eu des news il y a pas nouvelles. Si longtemps, mais
ouais,
je ne me souviens plus.
Ouais, c'est trop cool. Prévu.
Très cool. Bah, en tout cas, ouais, la série m'a trop hype aussi, j'ai juste envie d'y jouer, quoi.
Ah, clairement, ouais.
Mais ça n'a rien à voir, je vous préviens tout de suite, à part le lore, il est intéressant, mais le gameplay, rien à voir. Bah,
non, il y aura vraiment rien à voir à mon avis, mais bon.
Bon, bah voilà.
Voilà, on finit.
On a peut-être fait le tour, je pense.
Bah écoutez, j'espère que vous avez autant kiffé cette émission que nous sur la musique. Peut-être une chronique, enfin pas une chronique, mais une émission un peu plus tard quand même sur le même thème, parce qu'on a vraiment bien kiffé. Il y a de la matière à dire.
Franchement, le système de. Le fait qu'on ait mis, je pense, oui, je nous jette un peu des fleurs. Je trouve que le fait d'avoir mis des chroniques, enfin de la musique pendant qu'on parlait, ouais, dynamisait le truc de fou. Et bah, vraiment, je pense à toutes les chroniques, surtout à celle de Thomas et à Lucas qui ont vraiment bien utilisé ça.
Quand même, laisser une petite pensée au régisseur qui transpire comme un taré derrière la console.
Tu parles à la troisième personne, Thomas.
Ouais, voilà, donc c'est cool, mais pas toutes les semaines, quoi.
Ok, d'accord, bon, ça va.
Bah écoutez, on va finir cette chronique. N'oubliez pas, très important, cette chronique, je tiens, hein, cette émission. N'oubliez pas, très important, de nous suivre sur Facebook, sur RPG48FM et sur Instagram, évidemment, Radio pour le Gaming. Merci tout le monde, on se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure, sur 48FM.